Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis une dizaine d'années, les Saoudiens sont de plus en plus nombreux à s'exprimer sur les réseaux sociaux, s'impliquant dans des campagnes pour réclamer plus de droits et dénoncer les fortes disparités sociales dans le royaume wahhabite. Après avoir tenté de cadenasser l'accès à Internet et tout en maintenant la pression sur les militants des droits civiques, les autorités saoudiennes ont mis en place une stratégie d'influence, notamment via le service Twitter. Avec le chercheur Romain Abi, nous verrons que cela concerne la famille royale, les principaux aux ministres et les imams les plus en vue. À suivre également la revue de presse « Regards croisés sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Romain Abi, bonjour.
Bonjour.
Doctorant à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, vous êtes spécialiste de l'Arabie Saoudite où vous avez séjourné, je crois, de nombreuses fois et parfois plusieurs mois.
Oui, je suis resté en Arabie Saoudite entre 2013 et 2014, environ 18 mois.
Alors avant de parler avec vous de la stratégie d'influence de l'Arabie Saoudite sur les réseaux sociaux, dites-nous depuis quand et quels médias le pouvoir saoudien développe sa communication ?
Le gouvernement saoudien a pris conscience assez tôt de l'importance d'entretenir justement sa communication sur les médias en ligne. Il avait déjà depuis de nombreuses années entretenu sa communication sur les médias papier, plus traditionnels. Au début des années 90, il y a eu une véritable prise de conscience de la nécessité de se moderniser dans la communication. Donc essentiellement à travers la création d'organes de presse en ligne et également des chaînes satellitaires pour concurrencer justement d'autres chaînes qui commençaient à prendre de l'importance comme Al Jazeera. Donc au début des années 2000, donc 2003, la chaîne Al Arabiya a été lancée par le groupe NBC justement pour apporter ce surplus de communication saoudienne sur les nouveaux vecteurs de communication.
Alors on sait que le pouvoir saoudien contrôle plutôt de près la presse traditionnelle. Ce n'est peut-être pas le cas sur les réseaux sociaux. Pourquoi s'y aventurer ?
Les réseaux sociaux ont plusieurs avantages. L'avantage de mobiliser la masse, c'est-à-dire que la communication traditionnelle sur les médias en ligne, ça représente une communication officielle du gouvernement qui peut avoir entraîné une adhésion ou pas de la masse. Et ça peut être contesté justement par des puissances étrangères comme l'Iran, qui peut très bien par exemple présenter l'Arabie Saoudite comme un gouvernement qui communique sur les médias et qui n'a pas l'appui de la population. Les réseaux sociaux, justement, à la différence des médias traditionnels, c'est que ça permet de jauger un petit peu de la popularité d'un discours. Et c'est pour ça que les Saoudiens sont très au fait de ce point-là et qui communiquent également sur les réseaux sociaux.
Alors, ils utilisent quel genre d'application ? Facebook, Twitter, WhatsApp ?
Il y a une utilisation en Arabie Saoudite très, très importante des réseaux sociaux. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qu'il faudrait rappeler dans un premier temps. C'est que c'est un pays où le taux de pénétration d'Internet est assez élevé. On est en train de parler sur des taux de pénétration qui avoisinent les 60%. En réalité, c'est probablement un peu supérieur à ça, puisqu'il y a eu des nombreuses sociétés étrangères qui travaillent main dans la main avec les deux grands groupes de télécommunications saoudiens, STC, Saudi Telecom Company, et Mobily. Et donc, il y a des groupes, on pourrait citer des dizaines de groupes, mais pour rappel, ZTE, le chinois, par exemple, qui aide ces deux groupes saoudiens à étendre un petit peu la connexion Internet sur toutes les zones du territoire saoudien, y compris les zones plus reculées au sud de l'Arabie Saoudite, comme Najran. Donc, il y a vraiment un développement très intense des communications sur les réseaux sociaux. Et les Saoudiens sont très jeunes. Les Saoudiens, 45% environ de la population saoudienne a moins de 24 ans. La tranche des 25-30 ans est aussi très importante. Donc, c'est une population très jeune, très sensibilisée aux réseaux sociaux, qui a une communication, qui voit aussi un moyen de communiquer plus librement dans une société où les libertés sont traditionnellement beaucoup plus restreintes. Les réseaux sociaux offrent cet petit espace de liberté qu'on peut tordre un petit peu sans pour autant arriver sur une communication totalement libérée qui contesterait le régime. Donc il y a parmi les réseaux sociaux qui sont le plus utilisés Facebook et Twitter, bien évidemment. Petite supériorité en termes de nombre de Facebook. Par contre, l'utilisation est différente. C'est-à-dire que Facebook, au même titre que WhatsApp, qui n'est pas vraiment un réseau social, qui est plus une application de communication, sont utilisés dans des modèles plus personnels. C'est-à-dire, Facebook permet de garder contact avec sa famille, avec des amis qui sont à l'étranger. WhatsApp permet de communiquer en direct, par message ou dans des groupes avec des amis. Alors que Twitter a un véritable sens de communication, suivi de la presse, publication instantanée de ressentis sur l'actualité.
Alors justement, comment le pouvoir saoudien utilise-t-il Twitter ?
Alors le pouvoir saoudien a très tôt multiplié les organes et les groupes, les comptes Twitter qui communiquent sur l'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se connecte sur Twitter et qu'on observe la géolocalisation des comptes d'actualité, on se rendra compte qu'il y a une multitude de comptes qui ont été ouverts, qui sont localisés en Arabie Saoudite et qui publient de façon quotidienne, avec parfois même plus de 30 ou 40 tweets par jour, l'actualité, avec un prisme toujours très pro-saoudien. Et ces organes de presse en ligne, ces comptes Twitter, ne répondent pas forcément à des sites internet. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu un cheminement plutôt logique qui était des quotidiens papier qui ont eu un site, une version en ligne et qui par la suite se sont ont transité un petit peu leur communication sur les réseaux sociaux. En Arabie Saoudite, il y a cette particularité, c'est qu'il y a des centaines et des centaines, voire même des milliers si on considère les moins populaires, c'est-à-dire ceux qui ont le moins d'abonnés, de comptes saoudiens, pro-saoudiens, qui communiquent sur cette actualité. Donc ça, c'est un point très important parce que ça permet de saturer véritablement les réseaux sociaux avec une information, des diffusions à plus de 100 retweets, 200 retweets sur une information qui au départ est lancée par un organe de presse, ça peut être l'Arabia, ça peut être Saudi Gazette, ça peut être d'autres organes et qui sont repris énormément.
Alors, quelle est la stratégie numérique du pouvoir saoudien? Est-ce que c'est la royauté qui communique? Ce sont des personnes comment ça se passe?
Alors là, véritablement, il y a deux objectifs dans la cyberstratégie saoudienne. Le premier objectif, c'est la consolidation du pouvoir de la monarchie. La deuxième stratégie, c'est d'appuyer la politique étrangère de l'Arabie Saoudite sur les différents dossiers de politique étrangère et de confirmer son leadership régional. Donc ça peut être très bien ce qui se passe en Syrie, au Yémen, l'intervention militaire. Donc là, il y a ces deux dimensions qui sont des dimensions différentes, avec des angles d'attaque un petit peu différents. Par contre, la monarchie ne communique pas, le roi ne va pas prendre son téléphone pour publier des tweets. C'est ça la différence avec, par exemple, les dignitaires religieux du royaume. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que tous les organes de presse saoudiens qui publient des articles, comme les principaux journaux saoudiens, sont repris par, à la fois, donc, les intellectuels saoudiens, les pro-saoudiens qui peuvent très bien habiter à l'étranger, et tous les organes de presse que j'ai identifiés précédemment, qui sont des milliers à reprendre cette communication officielle. Donc, la communication officielle se fait sur les sites internet et est reprise massivement sur les réseaux sociaux. C'est ça la particularité de la communication de la famille royale sur les réseaux sociaux.
Et alors, vous parliez des dignitaires religieux. Qui sont-ils? Qui communiquent sur Twitter et pour dire quoi?
Voilà. Alors, il y a deux principales tendances. Il y a l'institution officielle wahhabite qui communique donc un peu moins sur les réseaux sociaux parce qu'il y a deux écoles. Il y a l'école plus traditionnelle qui, par exemple, celle du grand moufti d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Cheikh, qui lui, est, on l'a vu très bien dans les médias, a critiqué de nombreuses fois Twitter qui serait la source de tous les maux de la société saoudienne et qui serait un danger pour la communication des imams. Donc lui, particulièrement, n'aime pas trop la communication sur Twitter. Il y a des comptes de sympathisants qui publient un petit peu toutes les fatwas, qui font des publicités sur les fatwas qui ont été émises sur son site internet. Parce que justement, il a un site internet personnel où donc il s'étale largement sur ça, vision de la société, sur les sujets de religion qui intéressent l'ensemble de la population saoudienne et où il publie en audio ses fatwas. Par contre, il y a une deuxième école dans cette, toujours en restant dans cette institution officielle, comme Saad El-Brek ou Adel El-Kalbani, qui eux ont une communication très intensive sur les réseaux sociaux et qui est parfois même politisée. Alors qu'on s'entende bien, c'est pas politisé dans le sens où on va critiquer la monarchie. C'est pas du tout le cas. On est sur une critique, par exemple, de la stratégie d'influence de l'Iran. On est sur une critique des chiites en général. Ce type de critique peut émerger, parfois même en causant des problèmes aux personnes qui émettent ces propos-là, vu qu'il y a en Arabie Saoudite une partie de la population qui est chiite.
Alors ça, c'est pour la partie officielle, voilà. des religieux. Il y a aussi ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a les libéraux et il y a le groupe de 1991 aussi.
Voilà. Alors les libéraux sont beaucoup moins présents sur les réseaux sociaux. Ils y sont sur Twitter. Par contre, ils n'ont pas une popularité très importante parce que, tout simplement, la population saoudienne est formée et préformatée pour le discours wahhabite officiel. Et que ces libéraux n'ont pas vraiment une grosse popularité. Dans la plupart des cas, on est sur des comptes qui enregistrent entre 30 000 et 150 000 au maximum abonnés. Alors, pour rappel, certains imams saoudiens vont jusqu'à 15 millions d'abonnés, dépassant même le nombre de followers du roi, qui lui est aux alentours de 5 millions. Donc on est vraiment sur des bases de popularité qui sont assez réduites sur les libéraux. Par contre, il y a l'autre courant qui est relativement populaire, qui est de la Sahwal Islamia, l'éveil islamique, qui était un courant qui a été médiatisé et connu au début des années 90, qui s'était opposé.
La guerre du Golfe. Hein.
Voilà, qui s'était opposé justement au stationnement des troupes américaines sur le territoire saoudien, et qui avait eu des propos à l'époque contre le roi Fahd assez durs. Aujourd'hui, leur relation avec la monarchie a totalement évolué. S'ils avaient été critiques de la monarchie à un certain moment, aujourd'hui, ils sont utilisés par le gouvernement saoudien dans la stratégie de communication. Ils ont conservé une base de popularité qui est un peu différente de l'establishment officiel wahhabite. Par contre, ils sont présents, ils sont structurés autour des figures principales du mouvement de l'époque qui sont très présents sur les réseaux sociaux, comme Salman Rouda, par exemple, et Adel Al-Karni. Adel Al-Karni, par exemple, c'est l'exemple type de l'imam moderne dans sa communication sur Twitter. Parce que il est à la fois sur Twitter, mais sur tous les autres réseaux sociaux aussi. Il est sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux qu'on peut trouver. Il fait même des vidéos sur Periscope, par exemple, où des internautes saoudiens lui posent des questions sur la vie quotidienne en Arabie Saoudite.
Alors, quelle conclusion tirez-vous de cette étude sur Twitter en Arabie Saoudite ?
La conclusion, c'est qu'il y a énormément de groupes d'acteurs. La première étape de recherche, c'est finalement identifier les acteurs qui contribuent à cette stratégie d'influence. Il y a les acteurs politiques, comme on l'a vu, donc les principales figures de la monarchie, mais il y a également les acteurs religieux, on vient de le citer. Ces acteurs-là sont accompagnés aussi par d'autres acteurs. Les journalistes saoudiens, par exemple, qui répondent directement à leur organe de presse auprès duquel ils travaillent. Et il y a également des hommes d'affaires, parce que les hommes d'affaires en Arabie Saoudite, notamment dans le Hijaz, où j'ai pu passer du temps, sont des gens qui sont écoutés, des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc il y a les hommes d'affaires, les intellectuels saoudiens, et ces gens là, par contre, n'ont pas l'impact que peuvent avoir la monarchie ou les dignitaires religieux. Ils répondent finalement, ils sont embarqués dans une espèce de spirale de communication qui est soit influencée par l'emprise des religieux sur la société, soit par le pouvoir politique de la monarchie.
Pour une influence sur l'ensemble du monde arabe.
Oui, c'est-à-dire que dans un premier cercle, c'est l'Arabie Saoudite, mais finalement, ça s'étale aussi au-delà. Il y a une véritable stratégie d'influence et de communication qui s'opère sur l'ensemble du monde arabe. Et ça, on le voit très bien. Si on fait un tour des organes de presse qui sont disponibles et des articles, si on fait des alertes, ne serait-ce des alertes Google, on va recevoir énormément d'alertes de mail avec des articles de presse qui sont soit issus d'Arabie Saoudite, soit d'Égypte. L'Égypte aussi présente de façon intensive dans les organes de presse, mais l'Arabie Saoudite occupe vraiment un rôle sur l'ensemble des États de la Ligue arabe.
Merci Romain Abi, doctorant à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Vous êtes spécialiste de l'Arabie Saoudite.
Merci beaucoup.
Orient Hebdo sur RFI. Are you ready? Oh, oh, that's right, y'all. خدي. أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي. خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. حاول تحلق له طفض له فكك منه أو فكي. مهما قال لك وحلف لك وابعت لك سكو أو سكي. أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي. خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. حاول تحلق له طفض له فكك منه أو فكي. مهما قال لك وحلف لك وابعت لك سكو أو سكي. نازل من بيت الليلة جيب فول بيت زبادي وفين. العشا الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفين. قابلت واد فائد بالحته وفقري واسمه نينو. معمي ميه ودخان وبيزي يخرب بيت سنينه. قال لي ينفع يا مكي على الفيسبوك اعمل لك اب. انا واحمد معتز وطارق بكبك وعماد. Facebooki, plaidoyer du rappeur égyptien Ahmad Mekki en faveur de la vie privée sur le réseau social. Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, l'ensemble de la presse israélienne retrace la vie de Shimon Peres.
Oui, c'est bien sûr le sujet qui a fait la une tout au long de la semaine, l'état de santé de Shimon Peres, le 9e président israélien, l'homme des accords d'Oslo, mais aussi de la centrale nucléaire de Dimona, le prix Nobel de la paix, l'optimisme incarné dans un homme qui, à 93 ans, a toujours été tourné vers l'avenir. Ne pas s'attrister, ne pas désespérer, titre Yediot Aharonot. Shimon Peres, rappelle plusieurs commentateurs, est un politicien que les Israéliens ont appris à aimer, mais l'apprentissage a été long et pendant longtemps, il a été qualifié d'éternel perdant. Un homme qui, dans la première partie de sa vie politique, avait du mal à se prononcer, Ma'ariv rappelle sa réponse favorite, oui et non. Israël a bien besoin d'hommes comme lui, titre un chroniqueur, et un autre article sur lui est intitulé « Pour le bien ou pour le pire, le dernier des pères fondateurs de l'État hébreu, c'est le titre du quotidien Haaretz.
Alexandre, la trêve en Syrie fait la une des journaux panarabes.
Oui, des journaux qui consacrent de nombreux articles aux habitants d'Alep qui attendent prioritairement nourriture et médicaments. Une aide humanitaire dans l'arrivée est tributaire du retrait des troupes loyalistes et rebelles de la route du Castello reliant Alep à la frontière turque. Les journaux s'intéressent aussi aux détails de l'accord de trêve conclu entre les États-Unis et la Russie. Des détails jusque-là tenus secrets, ce qui irrite la France, précise le journal Shark Laosat. Selon le journal, ces détails portent sur les positions des groupes considérés comme terroristes et qui peuvent toujours être bombardés, malgré la trêve, par la coalition ou par les Russes. Le journal indique que la France est mécontente du fait que les Américains cherchent à réduire leur engagement en Syrie et ont reporté le sort du président Assad à une étape ultérieure. Paris soupçonnerait aussi Washington et Moscou de s'être entendus sur le dos de factions rebelles, non terroristes, mais considérées comme des empêcheurs de négocier en rang.
Michel, un scénario catastrophe imaginé par vos journaux.
Oui, que se passerait-il si une nouvelle guerre survenait au Proche-Orient et qu'Israël était visée sur tous les fronts ? Eh bien, ce scénario a été présenté par la presse à l'occasion d'un exercice de défense passive qui doit se dérouler en Israël la semaine prochaine, avec des chiffres effrayants qui sont reliés par tous les journaux. 230 000 roquettes et obus sont pointés sur Israël, dont la superficie ne dépasse pas celle de quelques départements français. Et il s'abattrait sur Israël à un rythme de 1500 par jour. Le nombre de morts civils israéliens s'élèverait, d'après ses prévisions, à 400 environ. Et 750 000 personnes devraient être évacuées des zones frontalières.
Et dans Haaretz, Michel, une affaire qui risque d'avoir des rebondissements internationaux.
Oui, c'est un article qui paraît à la une du quotidien libéral dans son édition du week-end. Les soldats de Tsahal ont tué des dizaines de prisonniers. Cela s'est passé lors d'une guerre dans le passé. Alors Eric, l'auteur de l'article ne donne pas beaucoup plus de détails, ni sur la date, ni sur le lieu de ce grave incident. Il se contente d'écrire que l'officier qui a donné cet ordre s'en est tiré avec une peine ridicule. Un article qui fera donc probablement du bruit.
Alexandre, vos journaux s'intéressent aux activités des frères musulmans dans plusieurs pays arabes.
Oui, des frères musulmans qui ont décidé de revenir sur la scène politique en Jordanie à l'occasion des prochaines élections législatives par le biais de leur bras politique, le Front d'Action Islamique. Une participation qui les placera en confrontation avec le gouvernement qui a cherché durant des années à réduire l'influence de la confrérie dans le royaume. Les journaux précisent aussi que le parti de la réforme au Yémen, un parti proche de la confrérie, a annoncé sur sa page officielle Facebook qu'il n'avait aucun lien avec l'Organisation internationale des frères musulmans.
Et puis un journal égyptien consacre un long reportage aux ex-voto, une vraie mine d'or dans les mosquées du pays.
Oui, une manne qui est difficile à quantifier tant les chiffres sont contradictoires. Des centaines de milliers d'Égyptiens déversent chaque année des dizaines de millions de livres dans les caisses d'ex-voto, des grandes mosquées, pour demander aux saints d'exaucer leurs vœux, de guérison, de réussite, etc. Alors des millions qui doivent théoriquement aller au ministère des biens religieux qui les redistribue à toutes les mosquées, y compris celles qui n'ont pas de grands saints. Ministère et mosquées s'accusent mutuellement de se servir dans les caisses.
Allez, pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Bien toujours Shimon Peres, c'est une multitude de photos consacrées à Shimon Peres. On le voit aux côtés de Ben Gurion et aussi de toutes les personnalités possibles, imaginables, depuis les années 50 du siècle dernier. Notamment la photo inoubliable, la poignée de main avec Yasser Arafat.
Oui, on s'en souvient. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par François Porcheron que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr et retrouver également sur notre page Facebook. Samedi prochain, nous évoquerons la situation en Libye avec le chercheur Ali Bensad qui en reviendra. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.